Bienvenue sur France Culture, il est 17h, très heureuse de vous retrouver pour le troisième numéro de ce nouveau rendez-vous en français dans le texte. Parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner au printemps dernier les plus belles pages de la littérature française dans la voix de grands comédiens, à vous les faire écouter ou réviser pour les moins de 18 ans, nous vous proposons de continuer l'aventure tous les samedis à 17h et de faire revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, philosophique ou historique, analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, les fables de La Fontaine. Une lecture qui sera désormais prolongée tous les samedis à 17h30 d'une grande dictée menée par Rachid Santaki, accompagnée ce soir de notre partenaire, le critique littéraire Alexis Broca, venu avec le hors-série du magazine Lire sous les bras, 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes, et avec Blandine Masson, notre madame fiction ici à France Culture. Bonjour à vous, c'est En français dans le texte, une émission à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard sur le fil de vos podcasts.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Dans un an, nous fêterons le 400e anniversaire de La Fontaine. Plus tout jeune, l'auteur des fables n'a pourtant jamais cessé d'être étudié par les plus jeunes. Si on le connaît, c'est d'abord pour cette œuvre monumentale, Les Fables, alors même que La Fontaine a écrit tout au long de sa vie du roman, du théâtre ou encore de la poésie. Aujourd'hui, qui dit fable dit La Fontaine. Et pourtant, me croirez-vous si je vous dis qu'il n'est pas l'inventeur du genre? À ses débuts, au contraire, il écrit en imitant ses prédécesseurs, grecs et latins, Ésope et Phèdre. Il les a depuis largement surpassés. Ce chef-d'œuvre de La Fontaine est un texte divers et surprenant qui contient à lui tout seul 1000 facettes. Moraliste ironique, l'auteur veut faire naître du plaisir et du sourire chez son lecteur. L'esthétique galante domine le XVIIe siècle, esthétique de la joie et de la séduction. C'est aussi un idéal social étroitement lié à la société d'Ancien Régime. La galanterie s'épanouit dans les salons. Cette culture s'illustre par son goût du jeu et de la conversation hissé au rang d'art. Parmi les genres littéraires qui font fureur dans les salons que fréquente La Fontaine, la fable ou l'apologue occupe un rang éminent. Quel procédé La Fontaine utilise-t-il pour nous surprendre dans ses fables? Un apologue se pose très directement cette question. C'est la 4e fable du 8e livre du recueil. Un livre parfois considéré comme le plus épicurien de tous. Fable étonnante et amusante, faite de vers mêlés, octosyllabes et alexandrins. On écoute la belle lecture du comédien Emmanuel Lemire.
Le pouvoir des fables, à Monsieur de Barillon. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis-je offrir mes vers et leur grâce légère? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêcher qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de 1000 endroits de la terre ils nous viennent des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose? Quel autre Hercule enfin ne se trouverait là de combattre cette hydre? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras? Si votre esprit plein de souplesse par éloquence et par adresse peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai 100 moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille, en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix « Et Cérès, que fit-elle ?» Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi de compte d'enfant, son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillée, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant.
C'était « Le pouvoir des fables », la quatrième fable du huitième livre du recueil « Les fables de La Fontaine ». On l'a écouté, on va maintenant l'étudier, c'est en français dans le texte, avec cette analyse de l'inspecteur général de l'éducation nationale, Alain Brune. Il a préparé cette analyse pour vous, et il tenait d'abord à souligner l'apparente simplicité de cette fable, construite en deux temps, ou peut-être en trois. On a d'abord un compliment en forme de dédicace à Monsieur de Barillon. Puis, la fable à proprement parler, c'est-à-dire un récit suivi d'une morale, autrement dit par La Fontaine lui-même, le corps suivi de l'âme. Mais cette construction apparemment bien établie du texte n'est peut-être pas si simple. Un mot d'abord de la dédicace à Paul de Barillon d'Anoncourt, diplomate, ami de La Fontaine, qui va être l'ambassadeur de Louis XIV à la cour d'Angleterre. D'entrée de jeu, le fabuliste crée un contraste entre l'élévation de son ami l'ambassadeur et la vulgarité de ce qu'il lui offre de simples contes. Dévaloriser son présent est à la fois une manière polie de grandir son ami, mais ce déséquilibre renvoie aussi à une hiérarchie bien réelle au XVIIe siècle entre la politique et la littérature. La grandeur sociale est à chercher ailleurs que dans la poésie, encore plus quand il s'agit de fables, c'est-à-dire de vers à la grâce légère, autrement dit de vers qui ne sont faits ni pour célébrer Dieu, ni pour louer le roi. Le travail est pourtant ciselé, l'ambassadeur rime avec grandeur, les contes vulgaires riment avec téméraire, l'alternance sophistiquée entre l'octosyllabe, vers très rapide, et l'alexandrin, plus considérable, va permettre de nombreux effets de rythme entre accélération et amplification. Et c'est bien une accélération qui est provoquée à compter du vers 6 par la série d'octosyllabes qui rapproche encore le propos, sinon de la prose, du moins de la conversation plaisante. Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Elle oppose, vous l'entendez, les débats du lapin et de la belette, dont s'occuperaient les fables, et les affaires du monde, le risque de voir l'Angleterre renoncer à son amitié pour la France, dont s'occupe l'ambassadeur. Le dédicataire, envoyé en 1677 par la France à Londres pour convaincre le souverain anglais de rester neutre dans la guerre de Hollande qui se prolonge, comme dans les tableaux du grand siècle qui montrent souvent les figures du temps, costumées en figures mythologiques ou légendaires, on a ici un rapide portrait allégorique de Louis XIV, en Hercule. Cela permet au fabuliste d'esquisser face à lui l'hydre de la guerre pour souhaiter que ses têtes cessent de repousser, autrement dit que s'arrêtent enfin les campagnes militaires menées par la France. Le repos espéré pour Louis est bien la paix attendue pour le royaume. Des vœux ardents sont prononcés et la promesse, en cas de succès, d'immoler sans mouton, La Fontaine enflamme son verbe. On peut encore remarquer une dernière chose dans ce préambule, cette tension qui permet d'éviter la monotonie. Dans l'écart entre les petits vers de 8 syllabes que sont les octosyllabes et les grands vers de 12 syllabes que sont les alexandrins. Mais aussi dans le contraste entre le grand et le petit, le noble et le modeste, l'important et le léger, jusqu'à cette hécatombe opposée à un peu d'encens. Les fables sont de petits contes, mais s'offrent à nous un grand horizon. Morale, sociale et parfois même politique. Allez, après ce préambule sous forme d'éloge, le récit peut commencer et il commence presque comme il se doit, par autrefois. Et si on réécoutait cette deuxième partie et si on se la remettait bien en tête, voire bien en bouche, avec cette lecture signée du comédien Emmanuel Lemire.
Dans Athènes autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille, en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix « Et Cérès, que fit-elle ?» Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi de compte d'enfant, son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si peau d'âne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant.
Merci Emmanuel Lemire d'avoir remis ces mots de La Fontaine dans notre tête. On a réécouté, on va maintenant commenter. Dans Athènes autrefois, peuple vain et léger, le décor ainsi posé, une situation d'urgence s'impose et lance l'action. Le fabuliste ne remonte pas aux origines, mais commence au milieu des choses, in medias res, comme on dit en latin. Il imite en cela les genres les plus nobles, l'épopée ou la tragédie. Le début du récit est très dynamique. Un orateur voyant sa patrie en danger va prendre la parole à la tribune. Dynamique grâce entre autres aux participes présents, voyants, qui soulignent la rapidité et la simultanéité de sa réaction. Un nouveau départ en fanfare. Que fait alors l'orateur à votre avis? Eh bien oui, il a recours à l'art oratoire, on n'en attendait pas moins de lui, et il prononce un discours où il invite ses concitoyens à agir. Mais ce discours qui prétend forcer les cœurs va se révéler totalement inefficace. Dans cette quatrième fable, La Fontaine se moque de la grandeur de la rhétorique, le fait de parler fortement. Souvenez-vous, l'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Les paroles s'envolent, les écrits restent, dit le proverbe latin, et en effet, rien n'y fait, le vent emporta tout. Son éloquence tombe à plat, face à elle, une autre hydre que la guerre, celle du peuple, animal aux têtes frivoles, écrit La Fontaine, insensible aux ruses oratoires. Ce peuple méprise notre valeureux orateur, ne daigne l'écouter, ni même d'ailleurs le regarder. Alors que faire pour lui? Le fabuliste pose la question. Le harangueur, La Fontaine finit de le disqualifier avec ce terme péjoratif, le harangueur va ici changer de nature. Le ton est donné par le changement énonciatif. Alors que c'était le fabuliste qui assumait la conduite du récit, c'est bien la voix de l'orateur qui se fait soudain entendre au discours direct. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. L'orateur, vous l'entendez, commence donc un court récit dont les protagonistes sont une déesse et deux animaux, l'anguille et l'hirondelle. Histoire simple qui débouche elle aussi sur une impasse et une énigme. Une fable dans la fable, en somme, l'orateur s'est fait fabuliste. Mais alors comment les choses se dénouent-elles, demande l'assemblée que le plaisir du récit a rassemblé. Contre toute attente, l'orateur refuse de régler la situation qu'il a lui-même mise en place. Loin de trouver un moyen de franchir le fleuve, Cérès change de monde, se tourne vers les auditeurs de l'orateur et par la voix de ce dernier semble s'adresser directement à eux. Comme un regard caméra au cinéma, le reproche fait par l'orateur semble habité par la colère de la déesse. Pour l'auditoire athénien, comme pour le lecteur de la fable, l'effet est très troublant. On voit qu'il y a ici une autre conclusion derrière la nécessité de réagir au péril qu'est Philippe et qu'Athènes ignore, c'est que la fable produit plus d'effets que les discours sophistiqués, au point de peser sur les problèmes du réel. Morale de l'histoire, ce qui séduit l'assemblée, c'est ce trait de fable, à condition que l'auteur tire la morale de sa fable sans se faire lui-même moralisateur. Nous voici ici, athéniens comme les autres, dit le poète. Être humain, c'est aimer les contes, que l'on soit athénien, contemporain de La Fontaine, ou futur lecteur de Perrault, qui écrira quelques années plus tard sa version de Podane. Même le public le plus léger peut voir sa conscience enrichie par le détour d'une fable et se transformer en véritable assemblée. Rien ne sert de nier cette part d'enfance qui vit en nous et tire plaisir à écouter de bonnes fables.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Et le plaisir des fables, il est intact dans les deux histoires qui vont suivre dans En français dans le texte. Elles tournent toutes deux autour d'un même sujet, l'amitié. Les fables de La Fontaine toujours, et on retrouve Emmanuel Lemire pour L'ours et l'amateur des jardins, puis Les deux amis.
L'ours et l'amateur des jardins. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveaux bellérophons, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou. La raison, d'ordinaire, n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que, tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi, de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de Flore. Il l'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais, parmi, quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. De façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ?» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble. et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une, allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. « Je t'attraperai bien, » dit-il, « et voici comme !» Aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et, non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Les deux amis. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez, homme, à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste, apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Deux fables en regard, deux récits là encore qui reposent sur le retournement et le paradoxe et qui nous invitent à réfléchir à l'amitié. Heureuse ou dangereuse, rassurante ou inquiétante, l'amitié d'abord d'un homme et d'un ours, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. L'ignorant, l'ami dangereux, c'est l'ours, bien sûr. Mais ne se pourrait-il pas, à vrai dire, que l'homme soit le plus ignorant des deux ? Faire d'un ours son émoucheur, c'est-à-dire celui qui le débarrasse des mouches, ne témoigne-t-il pas d'une parfaite méconnaissance de la nature? La morale ici nous conduit à nous interroger sur la responsabilité de chacun dans ce récit mené jusqu'à la chute, sans coup férir, ou presque. En écho, ou miroir inversé, l'amitié heureuse de deux vrais amis, comme La Fontaine le signifie. Aux amis de définir la nature de l'amitié qui les unit. Dans la première fable, elle s'apparente à un rapport utilitaire ou d'exploitation entre deux êtres inégaux. Dans la seconde, la onzième du huitième livre, elle relève plutôt du lien amoureux. Le moraliste se donne moins comme tâche de définir l'amitié de manière définitive ou univoque que d'en faire valoir les ambiguïtés, les bizarreries, les curiosités. On y revient toujours avec La Fontaine. Derrière sa simplicité apparente, le genre de la fable est un genre complexe, comme les affaires humaines dont elle s'occupe. On termine avec une fable bonus, Les obsèques de la lionne, sans commentaire, lu simplement par Emmanuel Lemire pour En français dans le texte.
Les obsèques de la lionne. la femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince, au cri, s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire, et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. » Le cerf reprit alors « Sire, le temps de pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici, m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi, quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. » À peine eut-on ouï la chose qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât, vous serez leur ami.
Bientôt 17h30 sur France Culture, c'était les fables de La Fontaine. Merci beaucoup aux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, Alain Brune, qui a préparé avec soin cette analyse, et Fabrice Poli, qui a lui préparé une analyse grammaticale de ces fables à retrouver en ligne à la page de En français dans le texte sur franceculture.fr.
France Culture, en français dans le texte. Olivia Gesbert.
Tout de suite, on quitte La Fontaine pour rejoindre Hugo. En français dans le texte, continue avec la dictée de Rachid Santaki et nos invités, Blandine Masson, la responsable des programmes fiction de France Culture, et Alexis Broca du magazine Lire. Munissez-vous, n'oubliez pas, d'un papier et d'un stylo. Et si vous voulez regarder en écoutant ou écouter en regardant, retrouvez-nous en vidéo sur le Facebook de France Culture. Tout de suite, c'est Yel, je t'aime encore.
Ça fait 15 ans que je te fais l'amour, tu me regardes toujours pas. Je te tourne autour, 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 mais tu ne me vois pas. Je parle pourtant la même langue, je la défends à tour de bras. De Tokyo à Portland, en passant par Barcelona. Je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadaptée. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est peut-être là la vérité, tu te poses beaucoup de questions. Ou peut-être, peut-être pas assez, c'est moi qui suis vraiment con.
Le groupe Yel, mené par la Bretonne Julie Budet, découvert avec Je veux te voir, lancé il y a 15 ans comme une petite bombe à retardement sur les réseaux, Yel revient en dur avec ce quatrième album, L'ère du Verseau, et ce titre, Je t'aime encore.
France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
C'est super, virgule. Johnny a dit à Adeline, Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette.
La semaine dernière, Rachid Santaki, bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous étiez Fernandelle dans Topaz et cette semaine, vous êtes les Inconnus dans un sketch, l'enseignement. Et c'est le prof de sport qui remplace le prof de français ce jour-là pour faire la dictée.
On n'est pas loin, j'ai fait un peu de boxe.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, mais là vous avez rangé les gants ?
Les gants, oui.
Ouais, mais sorti le stylo ?
Exactement.
Parce que c'est l'heure de la dictée. 17h30 passé hein, sur France Culture, l'heure de la dictée géante est arrivée. Pour vous, auditeurs de France Culture, et pour vous, Blandine Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre madame fiction de France Culture, c'est-à-dire que les lectures, les grands textes, les pièces qu'on peut écouter sans les voir, c'est vous qui vous en occupez. Et à vos côtés, pour vous challenger, voilà, il faut surtout pas utiliser des mots anglais, c'est pour ça que je m'y emploie. Alexis Broca du magazine Lire, magazine littéraire, notre partenaire avec ce hors-série génial, 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes, qui peut-être vous aider à l'avenir pour réussir cette fameuse grande dictée de Rachid Santaki. Bonjour Alexis Broca.
Bonjour Olivia.
On va rappeler le principe du jeu de la dictée, Rachid Santaki.
Donc j'effectue 3 lectures de ce texte. Première lecture pour vous familiariser avec le texte. Évidemment, nous sommes là pour nous amuser, donc pas d'inquiétude. Blandine, Alexis a l'air d'être à l'aise. Donc voilà, deuxième lecture, ce sera le moment de se pencher sur sa copie. Et une troisième lecture avec Olivia qui va souligner ou nous aider pour ne plus faire d'erreur. On va utiliser le mot erreur plutôt que faute pour rassurer nos auditeurs.
Voilà, pour tenter la correction un peu en direct avec vous, amis auditeurs. Alors Alexis Broca, c'était quoi, une ou deux fautes la semaine dernière? Vous avez alors, vraiment déchiré, faut
alors,
le dire.
Je n'ai fait qu'une faute à l'écrit, voilà. Mais je dois confesser à ma grande honte que j'ai fait une faute à l'oral. J'ai dit que j'étais gré à Balzac d'avoir introduit le réalisme en littérature. On n'est pas gré, hein. On sait gré à quelqu'un. L'expression, c'est savoir gré. Je l'emploie jamais d'habitude, mais voilà, je m'y suis risqué. J'ai trébuché.
Vous avez reçu des messages,
un message
pour être corrigé.
Terminé par un lol.
Voilà. Et Blandine Masson, votre relation, rapport à la dictée, vous êtes plutôt une preneuse de notes à faute habituée au sans faute?
En général, je ne fais pas de faute. Voilà, maintenant, peut-être que je vais faire beaucoup de fautes ce soir parce que tout d'un coup, je me retrouve avec une dictée géante.
Voilà. La peur hein, pour Blandine de trébucher ce soir.
Exactement, on va la rassurer, on est là pour s'amuser. Nos auditeurs aussi, je sais que des auditeurs font la dictée en famille, donc pour les plus jeunes, soyez indulgents.
Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde pour noter, une troisième rapide ensemble pour corriger. Voilà donc le rappel des règles. Quel texte vous avez choisi pour aujourd'hui, Rachid Santaki?
Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Lecture.
Si le lecteur y consent, nous essaierons de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvée avec nous en franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette cohue, en surcot, en hoqueton et en côte hardie. Et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux, au-dessus de nos têtes, une double voûte en ogive, lambrissée en sculpture de bois, peinte d'azur, fleurdelysée en or. Sous nos pieds, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, à quelques pas de nous, un énorme pilier, puis un autre, en tout 7 piliers dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées de la double voûte. Autour des 4 piliers, des boutiques de marchands, toutes étincelantes, de verre et de clinquants. Point final. Comment allez-vous?
Très bien. Je visualise déjà les.
Très bien.
Voilà,
très bonne technique.
Petits problèmes.
Je pense que je vais faire à peu près autant de fautes qu'il y a de piliers dans Notre-Dame. Mais
et d'accent circonflexe, oui. Je ne sais où.
Oui, oui, oui.
Bon, moi, j'ai les mains moites déjà pour tous ceux qui se sont saisis de leur crayon ou de leur plume. Elle n'est pas facile. Hein.
Non.
Ah, c'est le niveau de.
Non.
Ouais, j'ai l'impression qu'on monte un peu en niveau.
Une forme de gradation.
De numéro en numéro.
Des mots qu'on n'entend plus.
C'est vrai.
Il va falloir y aller à l'instinct, hein, intuitivement aussi, quand l'orthographe ne s'impose pas. On y va.
À c'est vous. Parti. Très bonne dictée à toutes et à tous.
Merci. On y va.
Et nous sommes là pour nous amuser.
D'accord.
Si le lecteur, y consent, virgule. Si le lecteur y consent, virgule. Nous essaierons de retrouver. Nous essaierons de retrouver. Par la pensée. Par la pensée. L'impression. L'impression qu'il eût éprouvé. Qu'il eût éprouvé.
Du verbe t'éprouver.
Olivia.
Qu'il eût éprouvé, Olivia, un peu de sérieux. Qu'il eût éprouvé avec nous en franchissant. Avec nous en franchissant. Qu'il eût éprouvé avec nous en franchissant. Le seuil de cette grande salle. Le seuil de cette grande salle au milieu de cette cohue, au milieu de cette cohue, en surcot, virgule, au milieu de cette cohue, en surcot, virgule, en octon. En octon et en côte hardie, point. En octon et en côte hardie, point. La dictée s'arrête là pour les écoliers, mais pas pour vous. On continue. Et d'abord, virgule. Et d'abord, virgule. Bourdonnement dans les oreilles, virgule. Et d'abord, virgule, bourdonnement dans les oreilles, virgule. Éblouissement dans les yeux, point. Éblouissement dans les yeux, point. Et d'abord, virgule, bourdonnement dans les oreilles, virgule. Éblouissement dans les yeux, point. Au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos têtes, une double voûte, en ogive, virgule. Je répète, au-dessus de nos têtes, une double voûte, en ogive, virgule, lambrissée, en sculpture de bois, virgule, lambrissé en sculpture de bois, virgule, peinte d'azur, virgule, peinte d'azur, virgule.
Il y a de la rature.
Très concentré. Hein. Fleur de lysée en or, point virgule, fleur de lysée. En or, point virgule. Donc je répète, peinte d'azur, virgule. Fleur de lysée en or, point virgule. Sous nos pieds, virgule. Sous nos pieds, virgule.
Il y a une virgule après or.
Point virgule. Après or. C'est ça. Sous nos pieds, virgule. Un pavé alternatif. Sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. Sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point.
On peut peut-être se refaire toute la phrase, Rachid, à partir de au-dessus.
D'accord. Au-dessus de notre tête, une double voûte en ogive, virgule, lambrissée en sculpture de bois, virgule, peinte d'azur, virgule, fleur de lysée en or, point, virgule, sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. À quelques pas de nous, virgule, à quelques pas de nous, virgule, un énorme pilier, virgule, à quelques pas de nous, virgule, un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule. Attention, il y a donc une répétition. Un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule, puis un autre, point, virgule.
Puis un autre.
Puis un autre, pardon, effectivement, Olivia. Les fameuses liaisons. Un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule, puis un autre, point, virgule.
D'accord, il y a deux puis un autre.
Voilà. En tout, sept piliers. En tout, sept piliers. En tout, sept piliers. Dans la longueur de la salle, virgule. Dans la longueur de la salle, virgule. En tout, sept piliers dans la longueur de la salle, virgule. Soutenant au milieu de sa largeur. Soutenant au milieu de sa largeur. Les retombées. Alors, je vais répéter. Soutenant au milieu de sa largeur. Les retombées. Les retombées. De la double voûte, point. Les retombées de la double voûte, point. Et dernière phrase. Autour des quatre premiers piliers, virgule. Autour des quatre premiers piliers, virgule. Des boutiques de marchands, virgule. Des boutiques de marchands, virgule. Tout étincelante, attention à la liaison, tout étincelante de verre et de clinquant, point final. Je répète, tout étincelante de verre et de clinquant, point final. Autour des quatre premiers piliers, virgule, des boutiques de marchands, virgule, tout étincelante de verre et de clinquant, point final.
J'adore le point final.
Très bonne nouvelle, nous avons terminé la dictée.
Et elle était ardue. J'entendais la voix, la petite voix d'Éric Rochant, le cinéaste qui était notre invité la semaine dernière, Rachid Santaki, pour faire cette dictée. Et quand vous étiez en train de lire, je l'entendais dire « Je comprends rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Comment je pourrais l'écrire ?»
Nous, on a été silencieux. Hein. Silencieux, concentrés.
Bien. Niveau de difficulté, Alexis, Blandine, pour vous, de cette dictée ?
Enfin, pour moi, je dois dire, d'abord, écrire à la main, parce qu'en fait,
ça fait
moi,
mal
j'essaye d'écrire souvent chez moi, mais on écrit quand même beaucoup avec des ordinateurs. Donc c'est vrai que tout d'un coup, je sens, d'abord, je sens que j'ai les épaules tendues, la main, enfin bon, je sens la tension physique, c'est quand même une expérience. Et puis évidemment, il y a des mots, alors côte hardie, fleur de lysée. Alors, je me suis débrouillée, hein. Mais bon, ça, j'ai vraiment un doute sur, et ça c'est vraiment intéressant, c'est quand il dit « et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux », il peut le dire au pluriel comme il peut le dire au singulier. Mmh. Alors, c'est une question de littérature.
Là, exactement.
On va se faire cette lecture-correction, mais peut-être juste avant, Rachid Santaki, pourquoi ce texte, en gros, où est-ce qu'il se situe un peu dans Notre-Dame? C'est vrai qu'on s'attendait...
Du coup, c'est une description du lieu dans l'ouvrage. Donc très technique, et il y avait ces petites difficultés avec des vêtements, encore une fois. C'est vrai, voilà.
Alors, si les auditeurs se sont relus, on va essayer de corriger. Je vous rappelle quand même que l'intégralité du texte, sans faute, est à lire, à retrouver à la page de En français dans le texte sur franceculture.fr. Vous m'aidez, Rachid Santaki. Si le lecteur y consent, C-O-N-S-E-N-T, c'est un indicatif présent. Nous essaierons, futur, de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvé. Alors là, on est face...
Eût éprouvé, Blandine.
J'ai mis E-U-T, et plus loin, éprouvé, et.
Et
qu'il eût éprouvé.
L'impression qu'il eût éprouvé.
J'ai éprouvé.
Qu'est-ce qu'il a éprouvé,
il a
justement
éprouvé l'impression quel COD qui est mis avant.
Par la pensée, voilà. L'impression qu'il eut éprouvé et eux.
Voilà. Et vous aviez aussi.
J'ai mis un accent circonflexe.
C'est ce que j'allais dire. Comme c'est le verbe avoir, la troisième personne, surtout du singulier, du subjonctif de l'imparfait.
Exactement.
Vous aviez. Plus que parfait, même, je crois.
La phrase a
J'ai triché, je suis allé voir dans le Becherel, mais j'ai peut-être mal regardé.
Je regarde aussi mes conjugaisons. Donc
En tout cas, la phrase me semble appeler un accent circonflexe.
Voilà. Et souvent, on a cette difficulté avec les temps, justement.
Ça, c'est mon problème, moi.
En fait, souvent, ce que je dis, c'est de connaître les différents temps. Et là, effectivement, avec cet accent circonflexe, on peut être en difficulté.
Comment vous avez écrit « Nous essayerons »
E-2-S-A-I-E-R-O-N-S, de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvé, et eux, avec nous, en franchissant le seuil de cette grande salle. Grand salle.
J'ai pas lu grande salle parce que c'est grande salle, celui qu'on connaît, mais là, c'est écrit grand salle avec le tiret. Et à l'époque, justement, alors là aussi, il faut respecter la graphie de l'époque, c'est avec justement, vous avez l'apostrophe. Grand salle.
Ah oui, la grand avec
exactement.
Ah, d'accord.
Donc qui est devenu un tiret et qu'on ne retrouve pas normalement. Et donc la définition, la salle, la grande salle, non féminin, pièce d'une habitation en particulier, d'un logis seigneurial dont les dimensions et l'espace sont suffisamment importants pour pouvoir y organiser des réceptions, des banquets.
En franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette cohue, C-O-H-U-E, en surco.
Donc non masculin, c'est un vêtement porté par-dessus, en fait, c'est la côte au Moyen-Âge.
Alors oui, comme vous avez fait, vous
l'écrivez comment, Alexis?
Pour le coup, j'ai mis un accent circonflexe en me disant que ça venait des côtes et que l'accent circonflexe remplace souvent un S qui a été enlevé par l'histoire, en fait. Je suis pas sûr du tout de moi.
Non, ce que j'ai vu, c'est surco, donc c'est S-U-R-C-O-T, tout simplement.
D'accord.
Mais il y avait aussi... Et du coup, c'est pour ça que sur la prononciation, c'est important. J'ai vu qu'on disait aussi surcôte et que ça vient de l'anglais, apparemment. Donc, attention aussi à ça. Et surcôte, effectivement, là, du coup, la prononciation, pas de E, donc c'est pas surcôte, ce n'est pas surcôte. Et effectivement, j'ai fait attention à ne pas induire les auditeurs
pas de circonflexe.
En erreur.
Donc, surcôte, S-U-R-C-O-T, sans chapeau, en hoqueton. Hoqueton, H-O.
Moi, j'ai mis un H,
oui,
c'est ça.
Ouais.
Oui.
Q-U-E-T-O-N, et en côte.
Je sais bien plus.
Il n'y a pas de S, c'est en coton.
C'est en coton, non.
Hoqueton, non.
Ah, d'accord, j'ai pensé que c'était comme. D'accord, donc moi j'ai mis un S.
Je vous donne la définition quand même, c'est toujours intéressant. Nom masculin, veste de grosse toile portée par les hommes d'armes sous le haubert.
Oui, donc il n'y en a qu'un.
Voilà.
Et cotardie.
Alors,
alors là, c'est.
Donc. Comment l'avez-vous écrit?
Moi, j'écris C-O-T-E.
D'accord.
Et plus loin, j'ai pas mis tiret, j'ai mis Hardy, H-A-R-D-I-E.
D'accord.
Alors moi, j'ai mis C-O-T-E en me disant que ça venait de la côte de Maille, c'est l'univers médiéval de Hugolien, de Notre-Dame de Paris. Mais je suis pas sûr de moi du tout.
Et un trait d'union et Hardy comme.
Alors Hardy, H-A-R-D-I-E.
Très bien.
Pas mis trait d'union.
Ouais, moi non plus.
Donc, trait d'union.
Il y a un trait d'union.
Trait d'union, effectivement. Donc, nom féminin, la côte hardie est un vêtement d'une pièce portée du 14e siècle au 16e siècle. C'est un haut de vêtement de dessus très répandu, donc soit comme vêtement de voyage ou comme vêtement de travail.
Et un T ou deux T?
Alors, deux T.
Deux T avec
d'union,
le tiré.
H-A-R-D-I-E. Point.
Un T.
Et d'abord, virgule, bourdonnement de zen, E-M-E-N-T dans les oreilles, virgule, éblouissement dans les yeux. Pas de difficulté ici.
Non, moi j'ai hésité, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai hésité entre... Finalement, je l'ai laissé au singulier.
Alors c'est bourdonnement au singulier, éblouissement au singulier, et les oreilles et les yeux. Au-dessus de nos têtes est une double voûte avec un chapeau, un accent circonflexe, en ogive, O-G-I-V-E, virgule, lambrissé, L-A-M, puisque ça précède le B-R-I-2-S, et E.
Et E.
C'est bon pour vous, lambrissé, une définition peut-être, Rachid?
Une charpente de toiture garnie à sa partie inférieure d'un lambris qui constitue une fausse voûte.
Alors, lambrissé en sculpture de bois, Alexis, Broca, est-ce que vous mettez S ou pas?
Alors, j'ai pas mis de sculpture, j'ai dit que c'est, je pense que, comment dire, lambrissé en sculpture de bois, ça m'aurait fait apparaître dans l'imaginaire des séries de sculptures comme ça, accrochées à cette deuxième voûte en bois. En sculpture de bois, j'ai plus l'impression que l'ensemble, en fait, de cette voûte lambrissée a été sculptée et ça me paraît plus crédible. Donc, je l'ai mis au singulier.
De sculpture.
Ouais.
Et Blandine,
oui, j'ai eu les mêmes hésitations avec effectivement une profusion d'images qui venaient de plusieurs sculptures. Et en fait, on peut aussi penser que c'est sculpté en bois.
Ouais. C'est l'ensemble qui est sculpté.
Oui, c'est compliqué là. Avec un P pour sculpture.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Et donc, du coup.
En fait, c'est pas clair mon truc, hein, parce que j'ai un petit S qui est un peu. J'ai un S qui. Que personne ne voit vraiment.
Blandine, je connais cette technique. Quand je corrige les copies, souvent
le E qui rebique.
Les plus près, il y a toujours une petite écriture pour se rattraper. C'est pas mal. C'est une bonne astuce parce que du coup il y avait un S et après.
Il y avait un S.
Et après.
Du coup, je peux dire qu'il y est.
Voilà, exactement. Je trouve que c'est pas mal. On va surveiller nos participantes et participants maintenant.
Alors SCULPTURES de bois, virgule, peinte, PEINTE, d'azur, fleur de lysée. Alors ça vient, peut-être il faut comprendre un peu l'étymologie, d'où vient ce mot, Rachid Santapi, pour savoir comment l'écrire.
Alors, fleur de lysée, d'abord c'est un terme employé, surtout la fleur de lys, c'est ce symbole en fait. Donc fleur de lysée, donc on imagine plusieurs symboles justement.
Moi j'ai tout attaché.
En or.
Ouais,
très bien,
parfait.
Pareil,
très bien.
Fleur de lys, avec un Y.
Et un E.
Voilà. Super.
Et ça nous fait comme l'Élysée, presque. Hein. Oui, FLEURDELYSEE.
Ouais,
voilà. En or, point virgule, donc pas de majuscule après le point de virgule. Non. Sous nos pieds, avec un S, un pavé et alternatif un et un D, et un E et un I et un P, si on fait un pavé alternatif de marbre blanc et noir. À quelques pas de nous, un énorme pilier, un seul ou deux ailes.
Pour moi, un seul.
Oui.
Virgule, puis un autre. Bon, il n'y avait pas vraiment de difficulté là. En tout, 7 piliers. Bon, on n'oublie pas le S à pilier puisqu'il y en a 7 dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées et ES, avec un M qui précède le B, de la double voûte, et hop, de nouveau l'accent circonflexe sur le U de voûte. Autour des 4,
QATATRE, pas de S à 4.
Invariable, le chiffre est invariable. Premier pilier, S en revanche à 4 premiers piliers S, des boutiques de marchands. Au pluriel.
Les deux, hein,
ça vous y aviez
aussi
pensé.
Moi j'ai mis marchand au pluriel et boutique au pluriel.
Exactement.
Vous aussi?
Oui, alors j'ai hésité, finalement j'ai effectivement.
Vous dites qu'il y avait pas mal de marchands.
S'il y avait plusieurs boutiques, il devait y avoir plusieurs marchands.
Tout étincelante de verre sans S et de clinquant, là avec un S.
Alors attention parce que,
la difficulté c'est le tout. Le tout étincelante. Qui connaît la règle? Et à mon avis, Alexis Broca doit la connaître.
Ah non, je la connais pas.
Parce qu'il a édité un hors-série Lire.
Oui, mais malheureusement.
5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes.
Alors c'est vrai, cela dit, je ne suis pas sûr que je serais capable de vous donner la règle. J'ai écrit tout TOUT, grâce à la magnifique liaison de Rachid. Donc je ne vais pas improviser sur une règle que je ne connais pas.
Oui.
Ça serait un peu.
Olivia.
Tout ici n'est pas un déterminant ni un prédéterminant, donc ne s'accorde pas avec un nom qui suivrait derrière, puisque c'est un adjectif. C'est pas non plus un pronom du genre tout va bien. C'est un adverbe, et c'est là que ça se complique un peu, parce que comme adverbe, il peut changer, il peut varier en fonction de l'adjectif féminin qu'il suit. Et ça va dépendre de la consonne, en gros, pour faire simple, simplifier la règle, s'il est suivi d'une consonne ou d'une voyelle. Par exemple, vous êtes toute belle, on mettra T-O-U-T-E, belle. Et vous êtes toute étincelante, là la liaison se fait d'elle-même à l'oreille, du coup il n'y a pas besoin de l'accorder.
Et voilà. Moi j'ai mis un S parce qu'en fait ce sont les boutiques qui sont étincelantes. À la fin
et sur le tout.
Oui. Alors, tout j'ai
non, le tout, T-O-U-T, bien sûr, oui. Et étincelante, effectivement, au pluriel.
Voilà.
Le verre est deux, clinquant, point final. Sur le choix du texte, c'est quand même compliqué de choisir de piocher dans les classiques et de trouver des passages où nos participantes et participants peuvent être en difficulté.
Un mot de Notre-Dame de Paris, Blandine Masson, ce texte de Victor Hugo, ce livre de Victor Hugo, on l'a vu adapté au cinéma, notamment co-scénarisé par Jacques Prévert, réalisé, c'était avec Anthony Quinn, hein, c'était ça, dans le rôle de Quasimodo, avec Gina Lollobrigida dans celui d'Esmeralda. Est-ce qu'au théâtre, ça se joue aussi?
Théâtre, je pourrais pas dire. On a rediffusé une très ancienne adaptation, puis on en avait fait un redécoupage pour la radio au moment de l'incendie qu'on avait enregistré avec Charles Berling. Je dois dire que j'ai relu entièrement Notre-Dame de Paris à ce moment-là, en entier. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en fait, au milieu du premier livre, il y a plusieurs chapitres qui sont vraiment une réflexion extraordinaire de Victor Hugo sur l'architecture.
Oui, il y a toute une digression sur,
et sur l'urbanisme, en fait, sur Paris. C'est très impressionnant. C'est vraiment comme un livre dans le livre, en fait. Ça m'a beaucoup. J'avais dû lire des éditions abrégées quand j'étais.
Oui, on les met pas ces chapitres en général. Voilà. C'est vrai.
Et en fait, en lisant intégralement, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai retrouvé la tour de Nesle à la fin. Et quand même, c'est cette femme qui est enfermée, qui a perdu sa fille. Bon, évidemment, Esmeralda. Qui... Oui. Mais c'est extraordinaire ce livre. C'est extraordinaire.
Alexis Broca, c'est un de vos livres. Pas forcément de chevet, mais comme vous relisez souvent, lisez ou relisez des classiques.
Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de me replonger dans Notre-Dame de Paris. Alors, j'ai lu ça dans une version beaucoup moins complète que la vôtre quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Cela dit, après, je m'y suis intéressé parce que un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature péruvien, a écrit un très bel essai sur Notre-Dame de Paris qui s'appelle l'orgie perpétuelle, où en fait, il s'intéresse à la façon dont Hugo, effectivement, phagocyte tout, à la fois l'architecture, l'urbanisme, l'histoire, le roman populaire, la grande narration, la religion, enfin bon.
La politique,
tout à fait. Il y a ce côté ogresque chez Hugo, surhumain, vraiment, une capacité à gérer.
Et écrit très jeune, en fait.
Il écrit très jeune.
Il a écrit Notre-Dame de Paris extrêmement jeune.
Alors, il avait une trentaine.
Oui, peut-être même pas. Mais vraiment très très jeune. Oui. C'est très étrange. C'est ça qui m'avait le plus. C'est un livre de jeune homme, en fait. Oui. Notre-Dame de Paris.
Merci de vous être prêtés tous les deux à cette dictée. Et à propos de jeunesse, quand on fait vous avez fait vos essais de micro, Alexis Broca, vous avez choisi quelques vers de Rimbaud.
De Rimbaud, en effet.
Ouais. Ce qui est quand même pas courant. Généralement, on parle de la météo, on a mangé à midi pour tester un peu sa voix au micro. Rimbaud, il est question de le faire entrer avec Verlaine au Panthéon. Il y a une pétition qui circule, en tout cas, pour le demander.
Alors, oui.
Vous l'appuierez, cette pétition?
Alors, je ne crois pas, je ne l'appuierai pas, par respect pour Rimbaud et par respect pour Verlaine. Je pense que le Rimbaud d'avant 20 ans, le Rimbaud qui écrivait de la poésie, n'aurait pas tellement aimé être honoré officiellement. Déjà qu'il avait beaucoup de mal avec les gens turbulents qui étaient les Utiques et les vilains bonshommes. Je pense que le Rimbaud africain qui avait pris, disons, une très grande distance avec la poésie aurait trouvé ça absolument ridicule. Et puis, comme le faisait observer un de mes amis, qui a envie de passer l'éternité aux côtés de son ex?
Voilà. Voilà, Rimbaud Verlaine. Merci pour cette réponse, Alexis Broca. Merci à vous, Blandine Masson.
Oui, merci à vous, c'était une très belle expérience.
De venir partager ce moment de la dictée, orchestrée de main de maître par Rachid Santaki avec nous. C'était En français dans le texte. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon, réalisée par Mediaportis Guérin, avec à la technique aujourd'hui Jérémy Kaufmann. Samedi prochain, les mémoires d'Adrien au programme de En français dans le texte. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous sur France Culture et vous dis à lundi midi pour une grande table musicale avec le chef d'orchestre Marc Minkowski, puis philosophique avec Michael Fossel.